Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Prune 92 FM pour l'émission Access, pour les troisièmes jeudis de chaque mois. Donc cette émission Access est animée, donc il y a donc Léo à la réalisation et Alice et Anthony au micro. Donc l'émission Access est une émission inclusive qui permet aux personnes responsables de lieux ou d'associations qui proposent des événements inclusifs, accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides, de présenter les événements qu'ils proposent. Aujourd'hui, nous allons parler du coup de l'opéra La Falaise des Lendemains, qui aura lieu le samedi 1er mars à 18h au théâtre Gralin à Nantes. Et donc pour en parler, je reçois donc du coup il y a donc Charline Galveau de Angers Nantes Opéra. Charline, bonjour.
Bonjour Anthony.
Il y a aussi donc Bénédicte Devancé, également du théâtre de Angers Nantes Opéra. Bénédicte, bonjour.
Bonjour Anthony.
Et Camille Rigolage du coup de Panonica, puisque Panonica est partenaire de cet opéra La Falaise des Lendemains. On en parlera tout à l'heure. Et puis donc après cette interview, donc Alice nous proposera comme chaque mois sa chronique, hein. Donc Alice, bonjour, peux-tu nous présenter ta chronique dont on parlera tout à l'heure après l'interview?
Bonjour à tous et toutes. Et ben moi, je vais vous emmener sur un spectacle de danse immersive et en plus qui est en langue des signes et qui nous a été audio décrit pour nous les personnes non et malvoyantes. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous dire le titre de ce spectacle?
Donc le spectacle, c'est An Immigrant's Story. Ah bon, ben désolé pour mon anglais. Pas trop parfait.
Mais si vous êtes des fidèles auditeurs de Access, nous en avions parlé le mois dernier et on avait reçu du coup l'équipe. On parlait le mois dernier dans notre émission Access. Si vous suivez cette émission régulièrement. Alors donc nous allons donc commencer l'interview avec Charline, Bénédicte et Camille. Donc merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter du coup votre fonction et votre structure? Alors je vais commencer du coup par Charline.
Oui, alors moi je suis chargée de l'accueil des publics et référente accessibilité donc pour Angers Nantes Opéra depuis 6 ans maintenant.
Et toi du coup Bénédicte?
Alors moi je m'occupe des relations avec la presse. Arrangé dans l'opéra et j'ai, en préparant l'émission, je me suis souvenue qu'à l'opéra, on propose des séances en audiodescription depuis 2010. Des représentations avec de grands opéras, mais finalement aussi, et on se tourne aussi vers la création avec des séances audio-décrites. Et on va en parler ce matin.
Et toi, Camille?
Alors, moi, je travaille pour la salle de concert Panonica. C'est une salle dédiée au jazz et aux musiques improvisées. Et moi, j'occupe la fonction de chargée d'action culturelle et je suis, comme Charline, référente accessibilité.
Et du coup, parce que là, comme du coup, l'opéra, là, La Falaise des Lendemains, dont on va parler, du coup, est au théâtre Gralin, du coup, qu'est-ce qui fait, Camille, que tu participes à ce projet, du coup, puisque tu es, toi, au Panonica?
Alors oui, moi je travaille donc pour Panonica et en fait c'est cet opéra, il fait partie d'un parcours plus large dédié à Jean-Marie Machado, donc compositeur, musicien, qui voyage en fait entre différents univers, jazz évidemment, aussi musique classique. Et là c'est son premier opéra et du coup on est plusieurs structures, Angers Nantes Opéra, Panonica, le Conservatoire et la Soufflerie, à lui avoir dédié tout un parcours à l'échelle de la saison. Et dans le cadre de ce parcours-là, on a donc cet opéra. Voilà, on est vraiment partenaire sur ce projet et on a souhaité du coup proposer cet opéra en audiodescription, ce qui permettait d'avoir aussi un partenariat encore plus poussé que d'habitude entre nos structures.
Donc Charline, est-ce que tu peux nous présenter du coup l'opéra La Falaise des Lendemains?
C'est plutôt Bénédicte qui va prendre
D'accord,
cette partie-là.
Okay.
Alors en quelques mots, La Falaise des Lendemains, c'est une création. Donc Camille l'a dit, c'est le premier opéra composé par Jean-Marie Machado. Je crois qu'il réalise un rêve en composant cet opéra. Il vit en Bretagne et donc la Bretagne l'a beaucoup inspiré. Il a voulu situer cette histoire qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale sur les côtes de Roscoff. Et du fait de ce drame qui se déroule, ce mélodrame très tragique qui se déroule en Bretagne, pour une première fois, on va entendre trois langues dans cet opéra. L'opéra est chanté et parlé en français, naturellement. En anglais aussi, puisqu'il y a deux des personnages qui sont anglais, britanniques. Et puis, étant donné que ça se passe en Bretagne, on entendra le breton chanter et parler. Donc je pense que ça, c'est une première aussi.
Et comment c'est venu l'idée à Jean-Marie Machado de créer cet opéra ? Est-ce que c'est parce qu'il a des liens avec la Bretagne, l'Angleterre ? Enfin,
Alors, je crois que la Bretagne, il y est très attaché. Il voulait ancrer l'histoire dans cette terre. Et je crois qu'il aime beaucoup raconter des histoires en musique. Et d'où la volonté. Et en Gênant Opéra, entre autres, lui a permis de réaliser ce rêve, de composer cet opéra. Il a réuni son ensemble de musiciens d'Ansace. Donc sur scène, c'est ça aussi qui est original, c'est que les musiciens sont sur scène. Il y a 16 musiciens, et plus lui au piano et un chef d'orchestre. Et puis 8 personnages, donc 6 chanteurs, solistes, qui viennent de différents univers, qui viennent de l'opéra, mais aussi de la comédie musicale, de la musique baroque. Et tous se réunissent et chantent ensemble. Et donc on entend les trois langues vraiment comme dans une conversation trilingue. C'est assez fluide et en même temps étonnant. Et on se rend compte que le breton fonctionne très bien chanté dans un opéra.
Alors, Bénédicte, tout à l'heure, tu disais que donc, dans l'opéra est chanté en breton, français et anglais. Du coup, je voulais savoir comment tout ça s'accorde. Et est-ce que tous les chanteurs et chanteuses chantent en anglais, français ou breton, ou est-ce que certains vont plutôt chanter en français, d'autres en anglais, d'autres en breton ?
Ils chantent tous en français, mais ils chantent aussi en fonction de leur nationalité. Donc les deux personnages britanniques chantent en anglais et ne chanteront pratiquement pas en breton, mais il y a quand même quelques airs de chœur où tous chantent ensemble en français et breton. Le breton se mêle très souvent dans une même phrase, on entend quelquefois les trois langues. Donc ils ont tous quand même appris quelques mots de breton pour chanter cet opéra.
Et pour compléter, pardon, je me permets, c'est Camille qui prend la parole. Je me permets, c'était le sous-titre un peu de l'opéra, c'est un jazz discant opéra. Et en fait, le discant, j'espère que je prononce bien discant ou discane, en fait, ça renvoie à une notion de chant contre chant, qui est une pratique aussi en chant breton, notamment, qui est fait de la sorte où il y a une personne ou un groupe de personnes qui vont lancer un premier chant et les personnes vont répondre, un autre groupe ou une autre personne va répondre, mais va reprendre la dernière phrase du chant. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de chant contre chant aussi qui est évoquée tout au fil de l'opéra et ça correspond bien à ce que tu viens de décrire.
Oui, c'est très juste. Et pour parler un petit peu de l'esprit de cette musique qui est très facile, qui est très accessible, c'est ça qui est assez réjouissant pour une création, c'est un spectacle qui se base beaucoup sur la comédie musicale. On entend presque un petit peu la musique d'un Michel Legrand, où il y a des accents lyriques, mais on est très facilement dans la comédie musicale.
On va faire une pause musicale et on se retrouvera juste après avec Charline Galvao et Bénédicte Devancé de Angers Opéra et Camille Rigolage du Panonica pour parler de la suite de l'interview. Donc on écoute du coup un extrait de l'opéra La Falaise et l'Endemain.
J'avais promis hier, en enterrant Lisbeth, visiter à chaque fête, et voilà que tu m'y ramènes déjà.
Alice, no lies, you're in for a surprise. Alice, no lies, dépêche-toi. Those are crisps. prince.
Ses empreintes à lui, qu'est-ce que tu dis? Oh, Don, you wouldn't pull a prank on an old lady.
I wouldn't dare, believe me. Alice, ce sont les pas de Chris.
Il l'a attendu. Oh, Lord.
He's been waiting for her. Elle et lui ensemble, 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 until the end, they'll be together.
De midi à 13h sur Prune.
Eh bien, à l'instant, vous avez pu écouter un extrait de l'opéra La falaise des lendemains, dont nous parlons en ce moment. Donc, cet opéra aura lieu le samedi 1er mars à 18h au théâtre Grasla à Nantes. Et donc, pour en parler, je suis avec Charline Galvao et Bénédicte Devancé d'Angers Nantes Opéra, ainsi que on a également avec nous aussi Camille Rigolage du Panonica, puisque le Panonica est partenaire de l'opéra La Falaise des Lendemains. Donc on va continuer l'interview. Alors je voulais savoir, cet opéra est-il accessible à tous les handicaps? Alors donc Charline ou Bénédicte, qui veut nous répondre?
Oui, ben alors, je veux bien prendre la voix. Du coup, en fait, là, on est vraiment sur une audiodescription, donc ciblée pour les personnes non et malvoyantes, en tout cas sur ce spectacle-là. C'est vrai que bon, c'est pas un opéra qui va être accessible, par exemple, pour les personnes sourdes, même si on a quand même des surtitrages, mais il y a quand même bon, plus de pertes. Mais on a quand même des surtitrages sur tous les spectacles. C'est vraiment une politique de la maison qui fait que tous les spectacles sont surtitrés. De toute façon, même un opéra chanté en français, c'est quand même difficile à comprendre. Donc les surtitres sont aussi utiles pour le tout public, évidemment. Mais là, on est sur une audiodescription, alors, qui est d'ailleurs un peu plus particulière que celle qu'on avait l'habitude de faire sur les saisons d'avant. Là, on travaille vraiment avec Jérémy de Pickup Productions qui va audiodécrire en live, ce qui est aussi un peu un challenge, alors que les audiodescriptions sur les saisons passées étaient donc réalisées avec Accès Culture, qui préparait en fait cette audiodescription qui était déjà enregistrée en amont. Donc il y a donc cette nouveauté aussi chez nous sur cette audiodescription. Donc il y a une audiodescription qui est passée aussi le 1er février, qui elle aussi aura été faite par Jérémy de Pickup en live aussi, mais sur un tout autre spectacle, donc un spectacle qui s'appelle Le Voyage de Wolfgang, qui est un spectacle autour des musiques de Mozart, sur un plus petit format. Donc ça va être un petit peu challengeant quand même pour Jérémy, mais évidemment on lui fournit plein d'éléments en amont pour qu'il puisse se préparer à cette audiodescription et à l'accueil de ce public.
Oui, puis maintenant, pour ceux et celles qui connaissent Jérémy, avant il faisait que du hip-hop, et maintenant il s'est formé dans plein de choses. Il fait du sport, du hip-hop, de la musique classique, de l'opéra. Voilà, plus ça va, plus il se forme à différentes cultures et différentes descriptions. Donc on peut être sûr que ce sera sûrement très bien.
Et oui, effectivement, pour compléter, nous, effectivement, on travaille aussi avec Jérémy de Pickup au Panonica depuis 3 ans déjà. Et ça faisait sens aussi que Jérémy intervienne sur l'audiodescription de cet opéra. Et lui, il a accueilli vraiment, comme tu disais, Charline, comme un challenge. Parce qu'effectivement, en termes de préparation, c'est énorme. Par rapport à nous, les concerts qu'on mène chez nous, il y a forcément un volet préparatoire aussi, mais qui est différent. Où nous, dans le jazz, il y a toute une partie improvisée. Donc, c'est une description de ce qui se joue au plateau, de ce qui peut s'entendre. Il apporte des compléments. Tandis que là, effectivement, tout est écrit. Il y a forcément des choses qui se dissocient, on va dire, de l'écriture au moment du jeu, au moment du live. Mais voilà, c'est une préparation beaucoup plus poussée et beaucoup plus complète. Et je crois qu'il y a eu des moments préparatoires en amont, des rencontres avec une partie de l'équipe d'Angers Nantes Opéra, La chef costumière notamment, je crois.
Oui, tout à fait. En fait, Jérémy a rencontré la chef de l'atelier costume, donc Nathalie. Et puis, ils ont pas mal dialogué aussi pour les préparations en fait en amont. Je sais que, par exemple, il va faire toucher des bouts de tissu, des costumes pour présenter en fait en amont du spectacle. Voilà cette matière qui aura sur scène. C'est vrai qu'un opéra, en fait, c'est aussi challengeant parce que c'est un art qui est vraiment complet entre les décors, la musique, les costumes, d'ailleurs le tout qui est créé dans nos ateliers.
Et je voulais savoir s'il y avait des dispositifs d'accueil particuliers, puisque je sais que des fois, dans certains opéras, entre autres, moi j'ai déjà eu la chance, enfin ici et moi on a eu la chance d'aller à la Traviata, il y avait un accueil particulier avant. Est-ce que du coup, là, pour cet opéra-là, il va y avoir aussi un accueil particulier pour les personnes non et malvoyantes avant ?
Oui, alors tout à fait. En fait, comme je disais, c'est moi qui suis référente en tout cas sur l'accueil des publics et notamment sur la partie accessibilité. En fait, on a des agents d'accueil qui sont formés tout au long de la saison, justement pour pouvoir guider les personnes. En amont, on essaye aussi de centraliser les différents besoins, c'est-à-dire est-ce que les personnes viennent en proxitane, est-ce que les personnes viennent en bus, auquel cas on peut aussi venir les chercher aux arrêts de bus avec les agents d'accueil. Est-ce qu'ils ont besoin de programmes en gros caractères, de programmes en braille, voilà, pour faire en sorte en fait, que l'accueil soit le plus chouette possible, qu'ils profitent de cette expérience totalement.
Et est-ce qu'avant il y aura, parce que quand je parlais de l'accueil spécifique, parce que par exemple à la Traviata, on avait eu la chance de bénéficier d'une médiation en amont. Est-ce que là aussi il y aura une médiation aussi avec du coup l'équipe de l'opéra?
Alors c'est pas vraiment sur la même forme parce que là en fait c'est vraiment Jérémy qui va s'occuper de A à Z de à la fois l'audio description et à la fois du temps justement de préparation en amont du public en salle. Comme je disais, il va faire toucher des bouts de tissu, il va parler un petit peu du contexte en fait de création de l'opéra, aussi de l'endroit où on se trouve. On a aussi eu cette préparation avec Jérémy de faire une visite de la salle, de lui présenter en fait l'histoire un petit peu de l'opéra, ce qui permet aussi de situer l'endroit où on se trouve et puis l'histoire de cette magnifique salle quand même qui est le théâtre Gralin. Cette médiation, elle va avoir une forme différente parce que c'est vrai que sur la Traviata, on avait vraiment donc une visite des décors. C'est des décors avec les personnes qui sont aux accessoires notamment, qui nous ont accueillis. Théo, donc de chez nous, de l'Action culturelle, qui a aussi aidé à mener cette visite à bien. Mais là, ça sera plutôt sur des petites choses à toucher, des choses à raconter, une histoire à raconter aussi à la fois du lieu et de l'opéra en amont du spectacle.
Et alors, je pense qu'un opéra par rapport à un festival de la danse ou par rapport à d'autres cultures musicales, c'est particulier. Moi, je me suis toujours demandé, mais dans un opéra, comment se fait une audiodescription et qu'est-ce qu'on nous décrit dans un opéra, puisque c'est quand même assez visuel. Des fois, ça arrive qu'il y ait des chansons qui sont pas. Alors, tout à l'heure, on parlait du coup des chansons qui étaient faites en langue bretonne et anglaise. Donc, qu'est-ce qu'on nous décrit du coup? Est-ce qu'on nous décrit aussi quand c'est une autre langue?
Alors, en fait, la particularité, je pense, de l'audiodescription sur l'opéra, c'est aussi beaucoup les surtitres, en fait, qui sont audiodécrits. Des fois, ça peut paraître un peu étonnant, je pense, quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, sur les premières audiodescriptions, parce que, on a une voix qui va nous dire la phrase qui va être chantée en amont du chant. Et donc, c'est finalement aussi les surtitres qui sont racontés, quoi.
Et les surtitres, c'est le livret, en fait. Donc, c'est les dialogues, les dialogues chantés. Je crois aussi évidemment que dans l'opéra, on décrit et on raconte un petit peu l'atmosphère, les couleurs sur scène, les costumes. Donc vous allez pouvoir les toucher. Les costumes dans cet opéra, ils sont assez intéressants. Ils ont été donc créés dans nos ateliers. Et comme c'est une histoire qui se passe dans un port en Bretagne, ce sont des costumes contemporains créés, mais qui s'inspirent de costumes qu'on connaît, les cirés de pêcheurs. Donc on retrouve une déclinaison des cirés de pêcheurs dans les costumes des hommes. Les femmes ont des robes, mais les robes sont recouvertes de résilles, de filets de pêcheurs qui sont teints, qui sont. Mais voilà, il y a toute cette inspiration effectivement du milieu de la pêche, du milieu des dockers, de ce milieu qui était difficile, mais que l'on retrouve jusque dans les costumes. Et donc ça, je crois que vous allez pouvoir justement le percevoir aussi un petit peu d'un point de vue tactile.
Et du coup, l'opéra La Falaise des Lendemains, là, il avait été décrit à Nantes le 1er mars, mais est-ce qu'il est décrit qu'à Nantes ou est-ce que c'est aussi audio-décrit dans d'autres villes? Est-ce qu'à Angers, par exemple, c'est audio-décrit aussi
Non, c'est une audio-description qui est vraiment propre au Théâtre Gralin et préparée, offerte par Panonica, à Nantes. Voilà, donc à Angers, il y a deux séances, mais qui n'auront pas d'audiodescription, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait.
Oui, donc ce que j'indiquais, c'était que c'est à l'échelle en fait, de notre partenariat et de l'ancrage effectivement local. Ce que j'expliquais, évidemment, c'est qu'on a, le souhait du coup, de rapprocher aussi nos structures. On a ce lien avec Jérémy de Pickup Production, mais qui a cet ancrage-là plutôt du côté de Nantes, qui continue à se déployer, à se développer aussi ailleurs. C'est pour ça aussi que c'est propre aussi à la ville.
Et l'opéra La Falaise des Lendemains, c'est pour y venir, c'est gratuit ou payant ? Est-ce que c'est payant ou gratuit ?
Alors, c'est payant. C'est payant. Effectivement, en fait, on a essayé de travailler deux concerts avec Angers Nantes Opéra. En fait, pour préciser, nous, Panonica, on a aussi des habitudes d'audiodescription avec Jérémy. On a un concert audiodécrit par trimestre. Donc c'est pour ça que je salue et je remercie le travail de mes collègues à Angers Nantes Opéra parce qu'on est sur des rythmes de programmation qui sont assez différents. Donc nous, on les a sollicités relativement tard par rapport au fonctionnement habituel de l'opéra qui est en saison. Nous, encore une fois, au trimestre, j'ai sollicité Sherline assez tardivement et puis le reste de l'équipe, évidemment, pour leur proposer l'audiodescription du coup de l'opéra. Donc merci de la souplesse et puis du rebondissement et ça a pris assez facilement. Donc l'idée, c'était de dupliquer un petit peu le fonctionnement qu'on a au Panonica, mais avec effectivement les réalités, les contraintes entre guillemets d'Angers Nantes Opéra. Donc il y a un tarif, nous on fait toujours un tarif aussi payant pour les audiodescriptions au Panonica, ce qui correspond nous à notre tarif très réduit et qui correspond ici à Angers Nantes Opéra au tarif en catégorie 1 à 22 euros. Ce qui est intéressant puisque ce sont des places qui seront en orchestre et je laisse compléter les collègues peut-être sur les tarifs qui peuvent être ceux de l'orchestre habituellement. C'est quand même un tarif qui est assez, du coup, oui, accessible.
En fait, en tarif plein, par exemple, sur un opéra, on est à 75 euros, quoi. Donc là, on est vraiment en tarif très réduit, donc sur des très bonnes places. En fait, c'est vrai que nous, on est sur une salle donc, qui est assez ancienne, avec plein de balcons. Il y a des places qui peuvent être un peu plus compliquées, à visibilité réduite. Là, en orchestre, on entend très bien, on est très proche de la scène. On est aussi au rez-de-chaussée, ce qui permet d'éviter de monter des marches. C'est pas un point négligeable. Et puis, c'est vrai que l'orchestre et le premier balcon, voilà, c'est là où on va avoir les premières catégories, normalement, en tout cas, les plus chères. Même si chez nous, on reste quand même très, très accessible. On a des places sur les opéras, en tout cas, toutes catégories confondues, qui partent de 4 à 75 euros, quoi.
Et pour compléter, donc on parlait effectivement tout à l'heure de l'accueil et je souhaiterais souligner que l'accueil commence au final dès l'achat des billets, dès la communication en fait aussi pour faire connaître du coup les propositions et l'achat des billets. C'est-à-dire que l'achat du billet, il va se faire directement auprès de ma collègue à la billetterie du Panonica qui s'appelle Charlène et qui du coup a été sensibilisée à l'accueil des personnes non et malvoyantes tout comme l'équipe du Panonica, notamment par vos soins d'ailleurs, Alice et Anthony, par le biais de l'association Auréa, parce que nous, contrairement effectivement à Angers Nantes Opéra, on a malheureusement des escaliers, c'est un peu le point noir nous, de notre accueil. Donc on a vraiment souhaité sensibiliser nos bénévoles, nos équipes salariées à l'accueil et au guidage des personnes pour que nos concerts puissent être accessibles en toute sécurité évidemment.
Et c'est vrai qu'on avait eu le plaisir de sensibiliser vos équipes à l'accueil et puis à la technique de guide pour les personnes non malvoyantes. Et ce qui est bien maintenant, c'est que grâce à ça, eh bien, on peut venir, mais je le dis pour les personnes non et malvoyantes qui nous écoutent, si vous voulez venir à des concerts qui sont, si vous voulez venir à des concerts qui ne sont pas audiodécrits, vous pouvez venir quand même, parce que moi, Alice et moi, nous sommes déjà allés à des concerts qui n'étaient pas audiodécrits, qui nous plaisaient. On a appelé Camille ou Charlène, et puis du coup, on a été accueillis, on a été guidés. Donc l'accompagnement, il se fait bien sûr plus pour les concerts audiodécrits, mais pas que, parce que si, par exemple, vous avez envie de venir voir un concert au Panonica, vous êtes non-voyant et que ce n'est pas audiodécrit, vous pouvez contacter le Panonica et du coup, ils vous aideront pour acheter vos places, ils mettront des bénévoles. Donc c'est vrai que cette sensibilisation qu'on a fait, on en a été plutôt content parce que ça permet du coup de venir voir d'autres spectacles qui ne sont pas forcément audiodécrits et puis qui peuvent nous plaire quand même à nous aussi.
Merci Anthony. Effectivement, on essaye de mettre sur besoin, sur demande, à disposition du coup des bénévoles qui ont été formés du coup aux techniques de guidage et qui passent la soirée avec les personnes si elles en ont le besoin, vraiment de l'accueil à la salle proxitane, en proxitane jusqu'à leur retour évidemment. Et donc pour revenir effectivement à cette notion d'accueil dès la billetterie, donc l'idée c'est que les personnes puissent contacter Charlène sur les horaires de billetterie. Donc c'est du mardi au vendredi de 14h à 18h. Il y a un numéro qui est notre numéro du coup d'accueil habituel, le 02 51 72 10 10. Peut-être qu'on pourra le rappeler aussi à la fin de l'émission.
Oui.
C'est peut-être pas le moment le plus opportun. Mais en tout cas, voilà, Charlène, du coup, vous reçoit en tout cas par téléphone, puisque les paiements s'effectuent en ligne par téléphone. Donc elle peut vous aider à faire du coup la démarche et ensuite vous êtes inscrit sur une liste et puis il suffit juste d'arriver le soir du concert et là vous serez accueilli, relais et pris par Engénante Opéra, voilà, pour l'accueil.
Et faut-il réserver pour l'Opéra La Falaise des Lendemains ?
Alors tout à fait, donc, pour l'audiodescription, c'est ce que j'indiquais, la réservation est à opérer auprès de Charlène. En gros, nous, ce qu'on a pu mettre en place, c'est réserver 18 places pour l'audiodescription, ce qui est la moyenne à peu près habituelle, puisqu'on est tributaire aussi d'un parc de casques audio. Donc 18 places, comme on l'indiquait, situées à l'orchestre, mais aussi au premier balcon. Non, uniquement à l'orchestre.
Uniquement à l'orchestre.
Est-ce que, par exemple, on sait que la plupart des spectacles, on peut y venir, mais on sait que tous les spectacles ne sont pas accessibles, par exemple, aux personnes non et malvoyantes, parce qu'ils ne sont pas en audiodescription, ou il y a des spectacles qui vont peut-être être en langue des signes. Du coup, moi, ma question, c'est comment vous choisissez que tel spectacle va être accessible, ou va être en audiodescription, ou va être en langue des signes, ou ne va pas être, ou comment vous choisissez, faites ce choix-là, en fait.
Ah. Sur les spectacles en audiodescription, je pense que sur les années passées, en tout cas, on ciblait vraiment les grands classiques qu'on avait dans notre saison. Donc voilà, comme la Traviata, par exemple, qui a eu un fort succès, d'ailleurs, auprès des personnes non et malvoyantes, parce que vous étiez quand même 26 en salle. Donc c'est plutôt chouette. Là, cette année, vraiment, il y a eu des choses qui sont parties de propositions, notamment de la proposition donc, du Panonica, en tout cas sur la falaise des lendemains, et aussi d'une envie de voir peut-être d'autres publics en salle. Notamment, on a ciblé un spectacle vraiment familial, donc le voyage de Wolfgang, donc, qui a eu lieu le 1er février à 18h en audiodescription aussi. Où là, vraiment, on est sur un spectacle autour des musiques de Mozart. Et on a aussi donc, une audiodescription avec un partenariat avec le Grand T, donc, sur Baobo, qui est aussi un autre type de spectacle, donc plutôt théâtre musical, conte musical. On a une proposition vraiment très variée, en tout cas sur les audiodescriptions cette année, beaucoup plus que les années passées. Et puis avec cette dualité entre les audiodescriptions déjà préenregistrées et puis les audiodescriptions live qui vont être faites par Jérémy, donc notamment sur le voyage de Wolfgang qui a été fait et puis sur la falaise des lendemains. Pour répondre peut-être un peu plus à ta question sur l'accessibilité et le type de handicap, comment on choisit aussi. Par exemple, pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est vrai qu'on a tendance à cibler les spectacles un peu plus de danse, où on a une proposition en fait, de danse par saison. Donc là, en l'occurrence, c'était Close Up de Noé Soulier, qui a eu lieu donc, le 26 janvier. Donc là, c'était naturellement accessible, en fait, parce que très visuel, avec beaucoup de moments où il n'y avait pas de musique, avec aussi un système un petit peu zoomé, en fait, sur des gestes précis des danseurs qui permettaient aussi une accessibilité encore plus grande au niveau visuel, en tout cas. Donc voilà, on essaye, en fait, de cibler les propositions en fonction plutôt des types de handicap. Et on a aussi cette année, donc pour la première fois, une proposition de séance inclusive. Donc là, va regrouper un peu plus de handicaps aussi en salle et notamment, on va pouvoir accueillir des handicaps un peu plus portés sur les handicaps psychiques. Pardon, j'arrête pas de bugger. Je suis désolée, ça va ? Ah oui, je fais des « e » partout. Ok. Donc là où on va assouplir les codes vraiment en salle, on va proposer en fait une salle de repos avec aussi des casques anti-bruit, des fidgets, des choses un petit peu en fait à manipuler pour pouvoir aussi sortir de salle quand on veut, la lumière qui va être un petit peu plus éclairée en salle pour être moins dans la pénombre. Évidemment des agents d'accueil qui sont toujours présents aussi à disposition et auprès du public si jamais en cas de besoin.
et pour Panonica. Nous, effectivement, la sélection des concerts au lieu des crises, que je disais, la spécificité, c'est qu'on est sur une programmation trimestrielle. Donc, en fait, ça se passe très simplement. Je fais un point avec mon directeur programmateur, Frédéric Roy. Et l'idée, c'est qu'on se dit, bon, à l'échelle du coup des concerts du trimestre qui arrivent, lequel peut être intéressant au vu des instruments sur scène, au vu de l'esthétique, aussi par rapport aux autres concerts qu'on aura pu déjà proposer en audiodescription, dans l'idée aussi de faire découvrir toute la largeur, on va dire, des jazz et des musiques improvisées d'aujourd'hui. Donc on essaye d'aller sur des propositions parfois un peu plus audacieuses, qui seraient aussi plus audacieuses pour tout public sur la musique plus improvisée. Ça dépend aussi de toute façon des goûts de chacun. Et puis on se dit qu'au plateau, donc sur la scène, c'est toujours intéressant aussi quand il y a un instrumentarium, c'est-à-dire des instruments qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire, voilà, qui ne se côtoient pas forcément d'habitude. Et dans les jazz, on a souvent des propositions qui peuvent permettre de s'aiguiser l'oreille et puis d'aller découvrir vraiment des choses nouvelles, des associations qui n'ont pas forcément été entendues ou faites avant. Voilà, c'est vraiment cette manière-là. Et pour les autres typologies de handicap, après, c'est vrai que je trouve ça super intéressant, l'idée de penser en inclusivité, c'est ce vers quoi on devrait toutes et toutes tendre. Après, chaque... on est très humble sur nos démarches. L'idée, c'est d'y aller étape par étape et d'inscrire les choses un peu dans la durée et dans le temps, d'être vraiment repéré sur la qualité du travail qu'on essaye de faire. Tout comme tu le disais, Anthony, tout à l'heure, le fait de se dire, bon, ben, on commence à être repéré parce qu'on sait que nos équipes, nos bénévoles sont formés. Vous êtes en capacité, du coup, d'aller sur des concerts en dehors des concerts au lieu des cris. Donc, la salle devient accueillante, l'équipe est accueillante, elle est repérée pour ça. Là, ce travail, on est en train de le mener à destination des personnes sourdes. Nous, on a commencé toutes ces démarches-là il y a à peu près 3 ans. Ce que je disais, on est au niveau zéro de l'accessibilité, empêché par ces escaliers, cet accès physique, mais il faut penser plus largement et autrement. Voilà, donc on commence à travailler à destination des personnes sourdes, notamment avec une association qui s'appelle Nantes LSF, avec laquelle travaille aussi Angers Nantes Opéra et beaucoup d'acteurs locaux. Et l'idée, nous, ça va être de proposer aussi des propositions un peu sur mesure pour faire découvrir le site. Ça sera pensé au printemps, par exemple. Sur des répétitions aussi, ce qu'on appelle les balances, les moments de répétition des musiciens sur une après-midi avant de jouer le soir même, le moment de réglage, et que les personnes sourdes et malentendantes qui assistent puissent, du coup, à poser la main sur les instruments, enclencher un dialogue qui va être, évidemment, interprété aussi en langue des signes. Enfin, voilà, avoir des moments privilégiés qui créent un premier temps de rencontre pour aller ensuite plus loin et, du coup, bah, développer ces propositions artistiques, développer aussi d'autres axes en interconnaissance. C'est l'idée.
Si je peux me compléter moi-même aussi sur tout à l'heure, sur la question, il y a aussi, donc, mis à part les audiodescriptions, tout le cycle en fait, de concerts, ça va mieux en le chantant, qui sont aussi naturellement accessibles, notamment pour les personnes non et malvoyantes. Donc c'est en plus des formats qui sont, de base, je pense, une proposition qui est bien à faire aussi pour le tout public qui viendrait pour la première fois. C'est-à-dire que c'est des spectacles qui sont à 5 euros, qui durent une heure, vraiment portés sur la voix, avec notamment les chœurs d'Angers Nantes Opéra sur scène, pour beaucoup, et puis une petite notion aussi participative, c'est-à-dire qu'on propose de chanter quelques chants, quelques airs de certains chants avec donc le chœur pour le public.
Et puis moi, pour avoir fait un, ça commence en le chantant, je le conseille parce que des fois, ça peut être angoissant de dire « Oui, mais on va chanter quelque chose qu'on ne connaît pas », mais en fait, on est ensemble et en fait, on est tous dans le même bateau, on chante tous ensemble, on essaie de chanter ce qu'on peut et c'est très drôle, mais c'est à la fois très drôle, mais très sympa, quoi, parce qu'on est tous, on chante tous ensemble, donc c'est avec du coup les chanteurs, donc c'est très sympa.
Et vous êtes guidé par le chef de chœur en général. Donc voilà, il y a un petit temps de répétition et puis après, toute la salle se lance en duo avec les artistes. Je voulais rajouter peut-être, si on veut continuer le parcours dans la musique de Jean-Marie Machado, il y a 2 propositions gratuites en fait et qui n'ont pas de dispositif particulier d'accessibilité mais qui sont gratuits. C'est un concert le dimanche matin à 11h. Dans le cadre des dimanches avec le conservatoire. Ce sont les élèves du conservatoire qui viennent jouer au Théâtre Gralin et ce sera jazz en matinée, c'est le 27 avril. Et puis il y aura un autre grand concert avec de nombreux élèves du conservatoire qui se réunissent en grande formation orchestrale et un concert qui s'appelle L'Esprit de l'eau, une composition aussi de Jean-Marie Machado et ce sera le 30 avril et ça c'est au conservatoire.
Je me permets de préciser aussi que, mis à part les audiodescriptions, évidemment, que ce soit sur les salamis en le chantant ou les propositions que Bénédicte vient de démettre, on peut tout à fait, on a des agents qui sont formés, si vous nous appelez en amont, prévoir l'accueil comme sur les audiodescriptions, que ce soit aller vous chercher au Proxitane ou à l'arrêt de bus.
Et je me permets aussi de rebondir, on parlait tout à l'heure de la dimension de médiation dans les interventions aussi de Jérémy, et c'est vrai que c'est toujours une dimension assez augmentée. En fait, je me dis, toutes les personnes, une audiodescription, c'est bénéfique pour toutes et tous, puisqu'en fait, moi, la première audiodescription que j'ai suivie, je me suis vraiment dit, en fait, j'ai appris plein de trucs, beaucoup plus que si j'étais simplement venue au concert, puisqu'effectivement, il y a tout ce volet introduction, histoire du lieu, il donne des repères visuels, on va dire, sur se dire, à tel emplacement de la scène, il y aura telle et telle chose. Il raconte aussi, du coup, une vraie médiation sur le volet artistique. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Et au Panonica, c'était pour préciser, à chaque fois qu'on fait une audiodescription, donc là, c'est un peu différent avec Angers Nantes Opéra, et je n'ai pas la date du prochain trimestre, parce que, comme vous le savez, on n'est pas sur la même temporalité, je pense que vous l'avez compris. Donc, nous, on va être en bouclage de plaquettes mi-février. Donc, c'est seulement à partir de mi-février que ce sera vraiment arrêté sur la date de l'audiodescription du dernier trimestre. L'idée, nous, c'est qu'on propose toujours un temps convivial en amont du coup de l'audiodescription. Donc on propose aux personnes de venir pour les soirs de concert avec un sandwich par exemple, et du coup on partage ce petit temps convivial, on offre un verre, on prend le temps de la discussion, et ensuite on entre dans l'audiodescription. Et ce qui est intéressant, et ça c'est commun aussi avec Angers Nantes Opéra, c'est le fait que les personnes entrent en salle avant l'ouverture publique. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez confortable, et vraiment on sent assez privilégié. Donc honnêtement, je me dis, ce serait à vivre par toutes et tous, ce serait vraiment super. Bon, c'est le volet un peu technique, le fait qu'il n'y ait pas assez de casques pour tout le monde, ça limite. Mais je pense que dans un monde idéal, on pourrait tous vivre une audiodescription et ce serait vraiment bénéfique pour toutes et tous.
Comment les personnes en situation de handicap sont-elles informées de vos événements accessibles ?
Alors nous, on travaille avec ma collègue à la communication, à les mettre en valeur sur nos sites internet, par exemple. On essaye de faire des articles, on a une rubrique actualité, donc de les mettre en avant. Il y a aussi, évidemment, sur le volet papier, un picto conséquent qui s'appelle AD pour indiquer que c'est audio décrit. Nous, en fait, très concrètement, on sait qu'on peut vraiment s'améliorer sur la visibilité en termes de communication de nos supports. C'est pour ça qu'on a été accompagné aussi par le collectif TECAP. On a cherché des financements, notamment avec la région, qui le permettait alors avec le dispositif écrin. Donc, on est lauréat de ce dispositif qui nous permet de financer aussi tout ce volet accessibilité et aussi la DRAC qui nous soutient pour le volet vraiment audio description. Et en tout cas, grâce au dispositif écrin, on a bénéficié d'un accompagnement avec le collectif TECAP. Il venait un peu en surprise sur des concerts pour nous faire des retours. Ils ont consulté, et toi-même, Anthony, du coup, nos sites internet, etc., nos différents supports, pour avoir des retours, pour améliorer l'usage, pour améliorer tout ça. Et en parallèle à ça, on fait partie aussi, il y a beaucoup de structures culturelles nantaises, quasiment toutes, qui font partie d'un collectif accessibilité. En soutien, il y a la ville de Nantes, notamment en la personne de Charlotte Audelan, qui travaille sur ces volets-là d'accessibilité. Et du coup, on travaille aussi à un podcast qui s'appelle Culture à l'oreille, donc qui est proposé, là, il va y en avoir 4 sur la saison, et qui permettent de mettre en avant des propositions accessibles aux personnes non et malvoyantes, avec des focus, des interviews. Donc vous aurez évidemment entendu Jérémy de Pick Up interviewer par ce biais-là. Il y a un volet calendrier. Enfin voilà, ça nous permet aussi de visibiliser nos actions par ce biais, par la force aussi du partenariat et du réseau.
Camille a dit déjà beaucoup, je pense. Je pense qu'on est un petit peu aussi sur les mêmes relais, que ce soit effectivement le podcast Culture à l'oreille. Évidemment, on envoie toutes les informations à nos publics déjà qui nous suivent, parce que comme on fait des audiodescriptions depuis 2010, on a déjà aussi un public qui nous suit sur les audiodescriptions. Et puis, on envoie beaucoup aussi aux structures relais, évidemment, les associations qui peuvent relayer. Il y a une spécificité quand même sur la communication, par exemple, pour les handicaps au niveau de la surdité, où là, on va vraiment essayer de compléter, en fait, de faire une vidéo de présentation du spectacle, donc en LSF, donc notamment avec Nantes LSF, dont Camille parlait tout à l'heure.
Et c'est vrai que sur Nantes, moi, je suis très fière de faire partie de ce réseau-là. Il y a vraiment un souhait collectif de faire avancer les choses. Il y a aussi, en parallèle, ce qu'on appelle des temps de rencontre culture et surdité pardon, à destination notamment du public sourd pour, je parlais d'interconnaissance, des fois nous acteurs culturels on fait des propositions, le public ne vient pas forcément. Donc là c'est vrai que nous ça nous pose question, on se dit bah, comment on peut faire mieux, est-ce que nos propositions sont adaptées, est-ce qu'on a bien communiqué, est-ce que tout ça. Et donc là ces rencontres qui sont là trimestrielles entre acteurs culturels et acteurs du monde sourd, voire public sourd, nous permettent de, voilà, d'identifier des choses et de mieux communiquer entre nous, de faire les choses vraiment d'une manière plus, voilà, plus adaptée, plus sur mesure. Et il y a vraiment voilà, cette force vive à l'échelle de Nantes qui est très agréable à vivre. On a des réunions mensuelles,
tout à fait.
Des déjeuners mensuels pour évoquer nos actualités et toutes les thématiques.
Dont échanger les bonnes pratiques.
Voilà, donc c'est vraiment précieux. Et voilà, on est très heureux et très ouvert à toutes les discussions, évidemment.
Et vous disiez tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du partenariat du coup entre Angers Nantes Opéra, le Conservatoire, la Soufflerie et du coup et aussi Panonica. Et du coup, ben ce partenariat, du coup, comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça a apporté à chacune des structures?
Ce partenariat, il a permis de mettre en place en fait tout un parcours de 6 concerts, je crois, au fil de la saison. Le premier avait lieu en octobre. Et donc, c'est inviter les spectateurs, les Nantais, à découvrir les différentes formes de musique de Jean-Marie Machado. Donc, jusqu'aux 2 rendez-vous du mois d'avril, après la falaise et le lendemain, donc ces 2 concerts. Ce que ça a pu apporter à toutes les sculptures, je pense que c'est une des premières fois où on est tous ensemble autour d'un même projet et d'un même artiste, en fait. Donc ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir avancer ensemble pour faire découvrir cette musique et ce compositeur.
Oui, tout à fait. Ce que tu dis très juste sur le fait que c'est la première fois, je pense, où on est peut-être autant de structures, en tout cas ces structures autour de ce projet-là artistique. Ça montre aussi la complémentarité des acteurs sur le territoire, puisque c'est l'image un peu de la musique de Machado qui va toucher à plein d'esthétiques différentes, ce qui est hyper intéressant puisque quand on regarde un peu son passé, on parlait de la culture bretonne, on parlait du volet interculturel qui est assez forte dans sa pratique musicale puisqu'il est né au Maroc, il a grandi dans une famille descendant de famille portugaise, espagnole, enfin il y a plein d'influences vraiment différentes dans sa musique. Et puis je pense que ça se traduit du coup à l'échelle des différents acteurs et des différentes esthétiques que nous on peut accompagner, donc ça fait vraiment pleinement sens. Et ça complète des partenariats déjà existants. Nous, on travaille régulièrement avec la Soufflerie, avec le Conservatoire à différents endroits, de la programmation, des projets d'action culturelle, etc. Donc ça fait vraiment sens, je pense, pour tout le monde, quoi.
Le parcours culturel à la nantaise. Ça.
Alors, une autre question, mais là, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je vous pose cette question à tous mes invités en ce moment. Du coup, je voulais savoir. Le choix de Mme Christelle Morancet concernant le budget et les subventions allouées à la culture va-t-il impacter vos structures? Et si oui, dans quelle mesure?
Bah, moi, je peux commencer. Ça a commencé malheureusement effectivement à nous impacter. Donc nous, en fait, en termes de projection, on programme environ 90 concerts à l'année. Là, on passerait à 50. Il faut savoir que ça se cumule effectivement. Donc nous, c'est une suppression hein, d'aide puisqu'on passe de 40 000 euros à 0 euros. Donc c'était très radical, très violent à recevoir. Voilà, je vous avoue qu'on était tous contents de partir un peu en vacances pour se reposer. Mais c'était dans un moment pas joyeux du tout. C'était vraiment très violent à recevoir. Est-ce que ça traduit de l'état du monde et de la société fait vraiment peur, en fait. Bref, et du coup, ces coupes se cumulent aussi avec un désengagement des départements. Donc, sur un volet différent, c'est pas mené du tout de la même manière, mais il y a effectivement cette réalité-là où les collectivités ont moins d'argent. Donc, il y a des coupes, effectivement, là, qui sont annoncées. Donc, voilà, donc le cumul de tout ça fait qu'on passe de concerts annuels de 90 dates à 50 dates annoncées. Donc, c'est assez radical. En termes de coupes, on perd 1/5 de notre budget pour faire court. Donc, c'est assez énorme. Sachant que nous, on accompagne déjà des musiques, des esthétiques qui sont assez marginalisées, entre guillemets, jazz et musiques improvisées aussi pour les musiciens et musiciennes sur le fait de créer un projet, se faire accompagner parce qu'on est aussi lieu de résidence, trouver des lieux de diffusion, c'est déjà quelque chose d'assez. C'est conséquent, c'est un véritable marathon. Donc là, c'est un coup porté vraiment à la création sur les esthétiques qu'on porte, sur la vie des artistes, hein, clairement, sur la vie aussi des équipes techniques. Et puis, à mon endroit, sur les projets d'action culturelle. Donc nous, évidemment, on porte des projets d'action culturelle, ce qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle, à destination des lycéens, des collégiens notamment. Et donc là, voilà le choix du bureau de l'association, donc dans Jazz Action, qui pilote le projet Panonica, au vu des suppressions des aides de la région et de la suspension des aides du département, a été de suspendre totalement les projets de AC à destination de ces publics pour la saison en cours 24-25. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, puisqu'on avait mobilisé les partenaires, on avait mobilisé, évidemment, rencontré les élèves. Ça impacte aussi les radios associatives. On est partenaire de Jet FM sur l'un de ces projets-là, qui malheureusement s'arrête. Donc c'est vraiment très alarmant, ça fait vraiment peur. Après, on reste mobilisé, on continue à monter des choses, à imaginer des suites, mais avec un futur assez incertain. Nos postes ne sont pas menacés sur 25. Hein. Concrètement, on est aussi un lieu labellisé, scène de musique actuelle. Donc on est préservé, on va dire, entre guillemets, par ce label-là et la nécessité aussi d'avoir des lieux de diffusion comme nous sur nos esthétiques. Mais voilà, c'est vrai que les signaux envoyés sont très négatifs et l'impact est réel et mortifère, vraiment.
Et Charline ou Bénédicte, est-ce qu'une d'entre vous veut réagir de votre côté ?
Alors, nous, notre saison 24-25, elle est bouclée, elle est engagée, donc il n'y aura pas du tout d'incidence sur cette saison. La saison prochaine, il y aura probablement des incidences, probablement moins de représentations. Est-ce qu'on pourra proposer autant de séances en audiodescription que cette saison-ci ? C'est vraiment les questions. On n'a pas du tout les réponses, puisque à notre niveau, on n'a pas encore travaillé réellement sur la préparation de la saison prochaine. Mais toutes ces questions se posent de réduction fatalement de nombre de représentations, peut-être suppression de certains spectacles que l'on menait justement en partenariat avec d'autres structures. Je pense à la programmation Baroque en scène, qui avait un très bel essor, une très belle fréquentation. Il est possible qu'on ne puisse plus mener ce type de proposition de musique baroque et accueillir ce type de concert. Et voilà, et possiblement moins d'actions culturelles, peut-être moins d'audiodescription, c'est le risque.
C'est pour ça que j'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, continuez à soutenir la culture, allez voir les spectacles et les concerts, pour continuer à soutenir tous ces lieux culturels qui se bougent et qui font plein de belles choses. Donc, allez voir des concerts, des spectacles et soutenir la culture.
Merci.
Merci.
Et donc, pour terminer, est-ce que, si on veut vous contacter, soit pour avoir des conseils sur l'accessibilité, sur comment rendre des événements accessibles, ou bien pour avoir des infos sur ce qui se passe dans vos structures ou sur la falaise des lendemains, comment est-ce qu'on peut vous contacter, du coup ?
Alors, je peux repréciser ici, évidemment, le volet réservation et paiement pour la falaise des lendemains. Donc, ça se fait auprès de ma collègue à la billetterie du Panonica, qui est, pour information, une billetterie qui est mutualisée avec la Bouche d'Air. Donc, nous, notre billetterie, elle est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h. Donc, vous allez avoir au bout du fil soit Charlène, donc ma collègue du Panonica, soit Sophie, ma collègue de la Bouche d'Air, qui est au fait, évidemment, de ce projet-là, et qui a la main sur le fichier d'inscription et qui peut procéder au paiement avec vous aussi par téléphone sans souci. Et donc, le numéro de téléphone, c'est le 02 51 72 10 10.
Et si on veut aller voir des spectacles, d'autres spectacles de Angers Nantes Opéra, comment on vous contacte, Charline ou Bénédicte ?
Oui. Alors du coup, vous pouvez me contacter moi directement. Donc d'ailleurs, le jour J, c'est toujours moi qui accueille. Donc si jamais il y a une problématique ou un retard ou un besoin, il ne faut pas hésiter. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 16 27 47 73. Et vous pouvez également contacter directement la billetterie, donc pour toutes les réservations. Donc nous, c'est le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 13h30 à 18h. Et donc la billetterie est joignable au 02 40 69 77 18 ou à l'adresse mail billetterie@angenanteopera.fr.
Eh bien, merci Charline, Bénédicte et Camille d'être venues pour nous présenter vos structures et entre autres pour nous parler de l'opéra La Falaise des Lendemains qui aura lieu le samedi 1er mars à 18h au théâtre Gralin à Nantes. On écoute donc un autre extrait de l'opéra La Falaise des Lendemains pour vous donner envie d'aller voir cet opéra. Et juste après, on retrouvera la chronique coup de cœur d'Alice.
Merci de cette émission.
Merci à vous d'être venu.
Merci. Merci.
C'était un garçon unique, entiché des chants de musique.
Incroyable.
Un soir d'été qu'il jouait de toute son âme.
Incroyable qu'il revienne, il doit aimer les peignes.
Une sirène enchantée par son ardeur, sa flamme.
C'est le rendez-vous des tordus, par des amoureux déçus.
La a surgi des flots énamourés pour venir l'écouter.
Prodigieux, la jeune océane, prodigieux, avec des jambes, des pieds. C'était une Morgane, petite fille de la célèbre fée.
Marade de monstres, assemblée, désastre.
Ils ont passé sous frère.
Ils ont passé sous frère. Cire de sensation.
Qu'est-ce que ça peut faire?
Coup de cœur. La chronique pour partager un coup de cœur, vu ou entendu.
Tout de suite, on écoute la chronique coup de cœur d'Alice. Alice, c'est à toi.
Donc, il y a quelques jours, je suis allée au théâtre Francine Vals, où j'ai été voir un spectacle de danse. Et pas... qui s'appelle An Immigrant's Story. Donc, ce spectacle, en fait, il y a à la fois la danse, il y a à la fois de la musique, il y a à la fois aussi des témoignages de personnes, parce que comme c'est un sujet sur l'immigration, et à la fois ce spectacle avait une particularité parce que nous, il était audio décrit par Julie de Access Culture. Et en même temps, il y avait la danseuse, une danseuse, mais il y avait aussi une danseuse qui faisait la langue des signes. Donc il y avait Wanjiru
Camillu.
Et il y avait aussi Nelly Sellerine qui, elle, était l'interprète en langue des signes. Donc, danser et faire la langue des signes, je ne sais pas si c'est facile. Et puis, bon, bah, il y avait, pour l'audio description, Julie de Access Culture. Le théâtre, si je peux parler du théâtre, en fait, le théâtre est accessible à tous, hein, parce que même pour aller dans la salle, il y a un ascenseur pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Et nous, on était un groupe de personnes non malvoyantes, un petit groupe, et nous, on a été accueillis. Et il y avait même dans ce groupe une personne qui était en fauteuil et malvoyante au passage. Et on était accueillis dès le départ, là aussi, par les personnes du théâtre Francine Vals et aussi par Julie et par... Anto, tu peux me souffler parce que tu étais là aussi. Donc, comment ?
Oui, donc du coup, par l'équipe, du coup, donc, parce que c'était un événement dans le cadre de Trajectoire. Donc, on était accueillis par Zelda Rabatuel du théâtre Francine Vals. Ouais, elle et toute son équipe, c'est eux qui nous ont accueillis, en fait.
Et il y avait une personne qui était du groupe du spectacle de danse qui s'appelle Dick Corel. J'espère que je n'écorche pas son nom. Mais voilà, lui qui nous a expliqué et qui nous a expliqué aussi une maquette qui a été faite. Donc, ça faisait comme la scène. Et sur la maquette, il y avait des chaises comme sur la scène mises à l'envers. Voilà ce qu'ils avaient fait aussi, ce spectacle au moment du Covid. Et là, le Covid, il fallait qu'on soit tous... à très grande distance des uns des autres. Donc, on ne pouvait pas être sur la scène auprès des deux danseuses. Et donc, il y avait ça. On a pu voir aussi les costumes de la danseuse, parce que la danseuse avait, pour au début du spectacle, elle avait un costume qui se voyait avec du jaune et du orange très flashy. Et après... Il y a des moments dans le spectacle où à l'enlever au fur et à mesure, c'est ce premier costume, elle se retrouve avec un deuxième costume. Et puis même voir avec un troisième, après quand elle défaisait le deuxième qui était un espèce de grand manteau avec des franges. Parce que ça va, j'ai tout dit, c'est vrai que c'était un bon moment, c'était un spectacle qui était très entraînant, on pouvait aller dedans. C'est vrai que ça... Et que nous, on avait l'audiodescription par les casques aussi, c'est pareil, par les boîtiers et les casques. Bah ouais. Voilà, autrement, Anto, je te rends la parole.
Eh bien, merci Alice pour nous avoir fait profiter de cette superbe chronique coup de cœur. L'émission Access se termine. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous, on en a eu à l'animer. Je remercie Léo pour la réalisation. Je remercie Alice pour sa chronique coup de cœur. Je remercie nos invités. Il y avait Sherline Galvao du Angers Nantes Opéra, Bénédicte Devancé également d'Angers Nantes Opéra et Camille Rigolage qui nous ont présenté leur structure et qui nous ont parlé de l'opéra La Falaise des Lendemains qui aura lieu le samedi 1er mars à 18h au Théâtre Gralin à Nantes. Donc le prochain épisode d'Access, on se retrouve pour le prochain Access le jeudi 20 mars. Dans un instant, on va vous laisser avec les programmes de Prune. Ne manquez pas à 17h30 l'émission Curiosité. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
Au revoir.